Bonjour tout le monde, ça va bien? Eh, mes amis, ça dort au gaz, hein? On va essayer de vous réveiller un petit peu ce matin. Ce matin, on termine la série sur l'ambition. Mais je veux, juste avant de faire un petit wrap-up, de résumer un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous mentionner qu'à compter de la semaine prochaine, c'est Miguel, un des pasteurs de l'Église ici, Miguel Richard, qui va commencer une série sur le livre des Proverbes. Je suis toujours mêlé, je les inverse toujours les deux. On l'a ici, merci. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Voyage au cœur de la sagesse de Dieu. Et donc, on va passer 4 semaines. Miguel va apporter les 3 premiers exposés. Je vais apporter le dernier dans le livre des Proverbes, qui est un livre, c'est peut-être le livre que j'ai le plus lu dans la Bible de toute ma vie, parce que pendant des années, puis encore aujourd'hui, je le fais, à tous les jours, je vais lire mon proverbe. Fait que c'est un livre qui m'est toujours apparu infiniment pratique. J'ai comme toujours besoin qu'il soit en train de réformer mon cœur. Et je suis certain, j'ai travaillé avec Miguel sur la préparation, la série, tout ça. J'ai hâte de le suivre. Alors, la famille Étienne, on va tomber en vacances dimanche prochain, en fait, pour 3 semaines. Mais je vais suivre ça attentivement. J'ai hâte de suivre cette série-là. J'ai vraiment, vraiment, ça va être une belle bénédiction. On vous encourage à lire les Proverbes, vous préparer tout ça pour cette belle série-là. Alors, ce matin, on termine la série sur les ambitions. Écoutez, quand j'ai eu à cœur d'adresser ce sujet-là, ça remonte à quelques années. Pour moi, la question de l'ambition chez les Québécois, c'est une question importante. On a un drôle de rapport avec l'ambition, je trouve, les Québécois. J'en ai parlé un petit peu lorsqu'on a commencé la série. Je trouve qu'on a un rapport difficile, paradoxal avec l'ambition. On rêve de faire des choses, mais souvent, ça reste plus en rêve que vraiment de passer à l'action. Hein? Une ambition, c'est quelque chose, c'est un désir qui va nous conduire à aller réaliser des choses, à vouloir laisser sa marque, à faire quelque chose de différent, de grand, tout ça. On a parlé de ça un petit peu en introduction. Et j'ai l'impression que pour les chrétiens, il y a quelque chose qui s'ajoute à ça encore, parce que notre compréhension de l'humilité, peut-être, je sais pas, fait qu'on se dit, ben c'est pas pour un chrétien avoir de grandes ambitions. C'est pas vraiment la place d'un chrétien de rêver, de réaliser de grandes choses. Et puis, on a l'impression qu'il y a une espèce de conflit, peut-être, avec cette notion-là d'humilité. Et j'ai l'impression que fondamentalement, là où on se mélange complètement, c'est qu'il y a une différence énorme entre ambitionner d'être couvert de gloire et d'honneur et ambitionner de faire de grandes choses. Ça, c'est 2 choses vraiment différentes. Et j'ai cherché à provoquer un petit peu votre réflexion au début de la série en disant, mais attendez un petit peu. Si vous êtes attentif dans votre lecture des Écritures, vous allez remarquer que, à l'humilité, Dieu attache une promesse. À celui qui est humble, Dieu attache une promesse. Dans le Nouveau Testament, ça revient de manière encore plus explicite, encore plus grande. Mais soyez attentifs si vous décidez de lire le livre des Proverbes. C'est là constamment à travers le livre des Proverbes aussi. À celui qui est humble, à celui qui cherche à faire le bien, à celui qui cherche à suivre Dieu, Dieu promet la gloire. C'est ça que Dieu promet. Donc, à quelque part, le chrétien poursuit l'humilité pour la gloire de Dieu, mais dans un espoir de participer à la gloire de Dieu, d'entrer dans la gloire de Dieu et lui-même d'être honoré par Dieu alors qu'on va être là. La promesse qui nous est faite, c'est d'être héritier avec Christ. La promesse qui nous est faite dès maintenant, c'est d'hériter de la gloire avec Christ. Christ nous appelle ses frères. Et donc, cette vision-là de l'humilité qui fait que je ne devrais pas aspirer à faire de grandes choses me semble vraiment conflictuelle. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on a perdu. Dans le premier message qu'on a vu ensemble, c'est que Dieu, qui est l'être glorieux par excellence, nous a créés à son image. Et ce qu'on voit dans la Genèse, c'est que Dieu place l'homme, la femme, créés à son image, j'oserais le dire comme ça, pour être des porteurs de gloire. Pour être des porteurs de gloire, parce qu'ils sont là pour refléter la gloire de Dieu. Ils sont placés sur la terre, pas seulement pour se courber toute la journée et dire « Wow, Dieu, t'es extraordinaire ». Ils sont là pour être des imitateurs de Dieu, dans le sens qu'ils sont là pour régir la terre, pour dominer dans le sens le plus noble du terme, pour organiser les choses. Ils sont là pour refléter Dieu dans leurs actions aussi. Et dans le deuxième message qu'on a vu, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, en même temps, l'ambition humaine est souvent tellement destructrice? Il y a quelque part, dès la création pratiquement, l'être humain est tombé dans ce piège, dans ce mensonge, qu'il pouvait se réaliser lui-même en se détachant de Dieu. Donc, l'être humain est tombé dans ce piège-là de dire, je vais m'accomplir sans mon Créateur. Je ne chercherai plus, je vais le dire comme ça, je ne chercherai plus à être le reflet de mon Créateur. Je vais être le reflet de moi-même. Je vais puiser en moi-même qui je veux être. Je vais me réaliser moi-même sans Dieu. Et je vais m'affirmer moi-même. Je vais devenir l'égal de Dieu. Je vais devenir mon propre Créateur. Je vais m'auto-créer moi-même. Je vais m'élever. Et à ce moment-là, L'ambition a été corrompue. Lorsque tous les êtres humains sont réunis devant Dieu, devant leur Créateur pour l'adorer, bien, je peux regarder les gens autour de moi et je peux dire, ah, lui, il a des dons, des talents là-dedans. Lui, il est musicien, un autre ici, une autre et ça. Moi, je n'ai pas ça. Mais à quelque part, on est tous devant Dieu, tous des créatures de Dieu. Et donc, j'ai comme ma juste place dans mon cœur devant Dieu. Mais à partir du moment où je décide que je vais me détacher de Dieu et que je ne vivrai plus comme une créature de Dieu qui est là pour refléter la gloire de Dieu premièrement, mais je peux me regarder un bout de temps dans le miroir. Mais ensuite de ça, je vais commencer à regarder autour de moi. Puis là, j'ai besoin que mes ambitions servent à définir ma valeur. Je regarde autour de moi et lorsque je regarde par là, je me désole. Parce qu'il est plus doué que moi, il est plus talentueux que moi. Puis lorsque je regarde par là, je me console parce qu'il est moins hot que moi. C'est la corruption de l'ambition. Et on a vu en terminant la semaine dernière que pour nous racheter de ça, pour nous sauver de ça, pour entreprendre cette restauration-là de l'ambition, on avait besoin d'un super-héros. Un vrai de vrai, pas un super-héros comme ceux qu'on regarde dans les films, tout ça, qui, dans le fond, sont aussi croches que nous, puis ont leurs propres ambitions égoïstes de gloire. On avait besoin d'un super-héros qui venait d'ailleurs. On avait besoin du Fils de Dieu qui venait s'incarner sur la terre et qui avait comme ambition première de glorifier Dieu à travers un projet complètement débile et ambitieux qui était de venir restaurer l'humanité, restaurer nos ambitions, nous sauver, nous ramener à la maison, à notre Créateur, nous rapprocher de lui. Ce matin, on va terminer cette série-là. Alors, vous allez tourner avec moi dans 2 Corinthiens 5. Luc va nous faire la lecture. Ce matin, on va couvrir pas mal de matière, d'accord? Je vois cette série-là comme une introduction à l'ambition. C'est comme ça que je le vois et j'espère tranquillement développer avec vous ces idées-là, ces concepts-là, parce qu'ils sont au cœur de l'Évangile, ils sont au cœur de notre identité. Et donc, le passage que Luc va nous lire ce matin est là au cœur de cette identité, ce super-héros qui est venu, incomparable avec aucun homme, et pourtant Dieu fait homme, Jésus-Christ. Ce super-héros-là est venu vivre une vie parfaite, mourir parfaitement, c'est-à-dire en sacrifice pour les hommes, ressuscité d'entre les morts. Et Dieu nous dit, soyez bien attentifs à ceci, Dieu nous dit que notre restauration passe par notre identification avec lui, par notre foi en lui, par une nouvelle identité qui nous est donnée, une identité en Jésus-Christ. Je ne pouvais pas faire autrement cette semaine pendant que j'étudiais le passage, d'être profondément attristé par... Comment au Québec on a un sacre absolument abominable lorsqu'on dit que quelqu'un est en Christ? Soyez attentifs au passage. J'ai aucune idée comment on a pu tordre une des idées les plus belles, sinon la plus belle de toute l'histoire de l'humanité, qu'on peut être en Jésus-Christ, et signifier par ça une colère absolue. Mais soyez attentifs, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai. Être en Jésus-Christ ce matin. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi pour élever ton nom, Seigneur, dans nos cœurs. À travers ce sujet très personnel qui nous touche dans nos tripes, qui nous rappelle des rêves brisés, qui nous rappelle des rêves présents, qui nous rappelle des rêves d'avenir, Seigneur, que le sujet de l'ambition. À travers tout ça, Seigneur, on veut bien comprendre bien connaître tes ambitions pour l'humanité, tes projets pour nous, Seigneur. et bien comprendre cette relation intime que nous avons avec Jésus-Christ qui nous libère enfin, de retrouver de belles ambitions, Seigneur, avec une liberté nouvelle. Alors, je te prie de venir nous parler ce matin, Seigneur, et de nous faire grandir en Jésus-Christ. Amen. Écoutons la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin, tiré du livre 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 21, dans l'édition Louis II. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14-21. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait pour nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Merci, Luc. J'ai un amateur de golf sur l'estrade qui est en train de quitter l'estrade. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau et de plus futile que le golf? Je m'excuse de le dire comme ça. Non, mais c'est un sport. J'attendais qu'il s'éloigne avant d'insulter le golf. Non, mais c'est un sport extraordinaire. C'est vrai que c'est un sport extraordinaire. C'est très, très beau à voir. Écoutez, moi, ça me fascine. C'est une espèce de science, cette affaire-là, de tout. Puis en même temps, ça sert absolument à rien pour faire avancer l'humanité. D'accord? Ça sert juste à courir puis à faire avancer une petite balle blanche. C'est absolument rien qu'à ça que ça sert. Peut-être aussi à servir l'ego de quelques milliers de vedettes sur la Terre qui peuvent prétendre un jour aspirer à se démarquer. Puis c'est Luc cette semaine qui a porté ceci à mon attention. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'aspirer à être un des meilleurs au monde, au golf, puis à quelque part de faire quelque chose à la gloire de Dieu? Cette semaine, Zach Johnson a gagné l'Omnium britannique. Zach Johnson est chrétien, d'accord? Il ne s'en cache pas du tout. Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'aspirer à être un des meilleurs joueurs de golf au monde? Je veux dire, écoutez, si vous appelez pas ça de l'ambition, je ne sais pas c'est quoi de l'ambition, là. Mais d'aspirer comme ça, aller gagner l'Omnium britannique. Puis à quelque part dans son cœur, de chercher à glorifier Dieu en toutes choses. Parce que j'imagine que Zach Johnson, après sa victoire de cette semaine sur l'Omnium britannique, c'est compliqué un petit peu la vie dans son cœur. À moins qu'il ne soit pas fait de la même matière que moi, là, je pense que les choses sont un petit peu plus compliquées dans son cœur aujourd'hui. Disons qu'il y a des tentations, il y a des choses qui sont là. Et je crois que c'est possible, évidemment, je pense que vous l'avez entendu à travers la série. Je crois que c'est possible de faire ça. Je pense que c'est bien de faire ça. Je pense que c'est honorable de faire ça. Mais une chose est certaine. Une chose est certaine. C'est qu'en atteignant des sommets comme ceux-là, Zach Johnson doit jongler régulièrement avec la question suivante. Où se trouve ma valeur? qu'est-ce qui définit ma valeur? Parce qu'à quelque part, qu'il le fasse pour les honneurs ou non, qu'il le fasse par amour du sport ou non, il reçoit un paquet d'honneurs actuellement. Et notre cœur étant ce qu'il est, on a parlé de la corruption, de l'ambition, notre cœur étant ce qu'il est, notre cœur naturellement veut prendre ça et dire, « Wow, regarde comme tu as une grande valeur. Regarde comme tu as une grande valeur. » Vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Ce matin, on va voir ensemble que si quelqu'un est en Jésus-Christ, sa valeur ne se trouve plus dans ses ambitions et dans ses réalisations. Et voici ce que j'aimerais que l'Église commence à ouvrir ses horizons, à comprendre. Je pense que ce que les Québécois ont beaucoup à travailler, c'est qu'il est alors libre d'ambitionner de grandes choses pour la gloire de Dieu. D'accord? Je répète ceci. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, sa valeur ne se trouve plus dans ses ambitions et ses réalisations. Il est alors libre d'ambitionner de grandes choses pour la gloire de Dieu. Ce que Paul nous enseigne dans 2 Corinthiens 5, c'est une des vérités, je crois, les plus difficiles à comprendre dans la vie chrétienne. Je pense vraiment que c'est le processus d'une vie, d'apprendre à comprendre dans toute sa richesse, sa profondeur et dans sa vérité concrète pour mon expérience à tous les jours, cette identité que j'ai comme chrétien, d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, il dit, « Si je suis à Christ, si j'ai placé ma foi à Christ, je ne connais plus le monde, je ne connais plus les gens autour de moi, je ne me connais plus moi-même de la même manière qu'avant. Parce que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Et ma valeur profonde, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu me considère, c'est à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et grandir dans cette vérité-là, c'est un des plus grands défis, je crois. En tout cas, dans ma vie personnelle, c'est un des plus grands défis de la vie chrétienne. Mais c'est aussi un des plus riches trésors de la vie chrétienne. Parce que cela a un impact tangible et concret sur mes rapports à la maison, sur mon rapport au travail, sur mon rapport à l'ambition, sur mon rapport à mes échecs. Mon identité propre et ma valeur profonde ne se trouvent pas dans le fait que je réussis à gagner l'Omnium britannique ou que je me promène en chaise roulante, que je réussisse à avoir la famille de rêve que j'aimerais avoir ou que je sois abandonné par mon conjoint qui abandonne la foi à part avec quelqu'un d'autre. Ma valeur profonde ne repose pas dans le fait qu'au travail, j'ai du succès puis je suis acclamé puis je suis le meilleur travailleur ou au contraire, personne ne remarque mon ouvrage. Ma valeur profonde repose dans le fait que je suis une créature de Dieu, qui a été créée à l'image de Dieu et qui a été réconciliée avec Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous a créés avec une grande valeur. Cette valeur-là repose dans le fait qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et ça, Adam et Ève l'avaient, l'humanité possédait cela, sans avoir fait absolument quoi que ce soit, aucune réalisation personnelle. Ils étaient là, puis Dieu a dit, « Vous êtes à mon image, vous êtes extraordinaire. Parce que vous êtes des reflets de ce que je suis, de ma gloire, à travers votre bonté, votre amour, votre désir de faire le bien, votre désir de construire, votre désir de glorifier Dieu. » Et l'humanité s'est détachée. Nous sommes individuellement détachés de notre Créateur. Et on est parti dans cette quête-là où on devait se réaliser nous-mêmes à travers nos ambitions. Non plus être le reflet de Dieu, mais être le reflet de nous-mêmes. Et ce que Jésus-Christ a fait, c'est qu'il nous a réconciliés avec Dieu en nous donnant sa nature à lui, sa perfection à lui. Donc, je ne suis pas engagé dans ma foi, dans un processus où OK, dans le fond, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu Dieu de vue. Là, il faut que je trouve le chemin pour redevenir à l'image de Dieu. Fait que, il va falloir que je me reconstruise moi-même, pas en étant un reflet de moi-même, mais en étant un reflet de Dieu. Fait que là, à travers plein de pratiques religieuses, je veux devenir comme Dieu. Je veux être bon, je veux être comme Dieu. Ce chemin-là, je ne peux pas le retrouver. Je n'arriverai pas dans ma nature profonde. Je suis rebelle envers Dieu et je vais dénaturer constamment même mes meilleures intentions. C'est Christ qui est venu l'accomplir. C'est lui le super-héros qui n'avait pas de motif double, qui avait une ambition, glorifier son Père, faire la volonté de son Père. Et c'est lui qui nous donne son identité. Et c'est ça le christianisme. Vous vous demandez, vous cherchez, c'est quoi le christianisme? C'est croire que je n'ai plus rien à faire pour plaire à Dieu, sinon que de placer ma foi en Jésus-Christ. Parce que lui a plu à Dieu. Et je suis caché en Jésus-Christ. Après ça, je vais être conduit à faire plein de choses qui vont plaire à Dieu. Mais je ne pourrai jamais ajouter quelque chose qui va faire que je vais plaire plus à Dieu que cette identité-là que j'ai en Jésus-Christ, parce que Dieu a décidé de me regarder à travers Christ. Et Paul me dit ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma valeur ne repose pas sur ce que je vais pouvoir faire. Ma valeur se trouve en Jésus-Christ. Et si vous retenez seulement ça, puis qu'après ça, vous commencez à prier pour vos ambitions, vos rêves, vous allez voir, Dieu va faire du ménage dans tout ça. Il va vous faire grandir. Ne pas saisir cette vérité-là, ça peut me conduire à avoir de mauvaises ambitions et ça peut me conduire à ne pas avoir d'ambition. Certains d'entre vous, vous n'avez pas d'ambition parce que vous pensez que votre valeur dépend de ce que vous pouvez réaliser. Vos rêves ont été brisés, vous n'avez pas réussi à accomplir ce que vous vouliez. Vous avez renoncé à avoir des ambitions. Pourquoi? Manque de foi, OK, peut-être. Votre valeur dépend de ce que vous allez réaliser. Donc, tu peux ne pas avoir d'ambition puis pas comprendre ça, puis tu peux être rempli d'ambition égoïste, comme on a dit, puis ne pas comprendre ça. C'est pour ça que j'insiste pour dire. Celui qui saisit que son identité, sa valeur profonde est dans l'œuvre de Christ accomplie en sa faveur, est libre d'avoir de grandes ambitions pour la gloire de Dieu. Et je réalise que ce n'est pas à travers mes réalisations, mes accomplissements que ma valeur va se définir. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, 7 à 9, parlant de tout ce sur quoi il aurait pu s'appuyer pour dire « voici ma grandeur, voici ma valeur ». Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Il y aurait beaucoup à dire sur ce passage-là. Mais Paul a renoncé à se regarder lui-même devant Dieu à travers ce qu'il était comme juif, pharisien, expert de la loi, grand juif parmi les juifs. Il a renoncé à tout cela. Il a dit non, tout ce que je veux, c'est ce que Christ a fait pour moi. Et Paul a été libre à ce moment-là d'avoir des rêves complètement débiles, de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. S'il y avait quelqu'un qui avait de grands rêves, de grandes ambitions, c'était l'apôtre Paul. J'ai enfin retrouvé ma valeur en mon Créateur à travers l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, quand ça s'est réglé dans ma vie, Dieu a à présent une grande ambition pour ma vie. Vous allez voir, plus on va avancer, plus ça va devenir concret et pratique. L'ambition de Dieu est la mienne. À partir du moment où un individu place sa foi en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui s'enclenche. Moi, si je voulais être vraiment complet dans ma théologie, ça remonte bien avant ça, là, mais on n'ira pas là ce matin, OK? À partir du moment où je place ma foi en Jésus-Christ, il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Dieu, je dirais comme ça, active une promesse à ce moment-là parce que j'embrasse par la foi l'œuvre de Christ. Dieu me fait une promesse qui remonte dans l'éternité. Je sais, on ne va pas là ce matin. Je vais former Jésus-Christ en toi. L'ambition de Dieu pour ma vie, l'ambition première de Dieu pour ma vie, pour la tienne, si tu as cru en Jésus-Christ, c'est de former Christ en toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est former le caractère de Jésus-Christ en toi. Celui que tu penses inimitable, incapable à imiter quand tu lis les quatre évangiles, tu te dis, ça se peut pas être comme ça. Ben, ça se peut, puis je vais le faire avec toi. C'est ça la promesse de Dieu. Il y a beaucoup de travail à faire, je le sais. Mais c'est l'ambition de Dieu pour toi. Et ça, c'est important pour comprendre nos ambitions, nos rêves. C'est que l'ambition première de Dieu pour moi, c'est de former Christ en moi. Et donc, tout ce qui va se passer dans ma vie, mes rêves, mes projets, mes ambitions, ce que je vais entreprendre, Dieu va toujours, constamment, être en train de se servir de ça pour former Christ en moi. Parce que c'est son ambition première envers moi. C'est former Christ en moi. Est-ce que vous me suivez? Et donc, je peux rêver des choses absolument extraordinaires. Dieu a décidé cette semaine que Zach Johnson allait gagner l'Omnium britannique. Il a plu à Dieu. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de providence divine au golf. Tu m'excuseras, Luc. Je crois quand même qu'il y a pas mal de providence divine. Dieu a décidé que Zach Johnson allait gagner l'Omnium britannique. Dieu est en train de former Christ dans Zach Johnson. Ah, d'autres fois, il va le former avec des échecs, toutes sortes de choses. Mais ça, c'est l'ambition de Dieu envers moi. Paul dit dans Galates 4:19, s'adressant à l'Église qui est à Galates, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et si ça, c'est l'ambition de Dieu envers moi, envers toi, ma plus grande ambition, c'est de m'approcher de Dieu. Voyez-vous, on a été créé à l'image de Dieu, on était parfaitement connecté avec Dieu, on était dans cette intimité-là. Et on a décidé de se définir sans Dieu. L'œuvre que Christ a accomplie envers moi m'a rattaché, m'a ramené à mon Créateur. Ma plus grande ambition dorénavant, c'est de m'approcher de Dieu, de le connaître personnellement. On pourrait le formuler de mille manières. Vous pourriez dire, non, ce que tu veux, Yannick, c'est glorifier Dieu. C'est deux synonymes, il faut que tu comprennes ça, c'est super important. Glorifier Dieu, c'est t'approcher de Dieu, c'est l'aimer, c'est le connaître, c'est être bien en lui, en toute chose, c'est le poursuivre, c'est poursuivre Christ. Non, ma plus grande ambition, Yannick, c'est connaître Christ. Oui, c'est Dieu le Fils, on parle tous de la même affaire, d'accord? Avec des subtilités, avec des nuances, avec une richesse, une profondeur. Ma plus grande ambition, à partir du moment où je réalise que j'ai été réconcilié avec Dieu, mon Créateur, ma plus grande ambition, c'est de m'approcher de Dieu et de le connaître intimement. Et donc, moi aussi, je prends conscience que tout ce que j'entreprends dans la vie, que ce soit me lever le matin pour aller à l'église, que ce soit me lever demain matin pour aller travailler, que ce soit pour partir en vacances, que ce soit me marier, que ce soit avoir des amis, que ce soit rêver d'une carrière, que ce soit faire des études, que ce soit absolument n'importe quoi. À travers ça, la plus grande ambition de Dieu envers moi, c'est de former Christ en moi. Ma plus grande ambition comme chrétien, c'est de connaître Dieu à travers ça. Ça peut sembler très, très théorique, très, très loin de la réalité de notre quotidien. Mais lorsque nos rêves sont frustrés, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers la providence divine, vers la souveraineté de Dieu. Notre théologie nous dit, je pense que j'ai un problème avec toi, ô Dieu, toi qui es souverain sur plein d'affaires dans ma vie. Quand nos ambitions sont frustrées, on réalise que tout ce qu'on fait, même nos ambitions, sont intimement reliées avec Dieu. Mais c'est vrai aussi lorsque Dieu bénit nos ambitions. Alors, premièrement, si j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, ma valeur se trouve en Jésus-Christ. Pas dans ce que je vais réussir à accomplir. Deuxièmement, Dieu a une ambition envers moi, j'en ai une aussi. À partir du moment où je réalise que ma valeur est en Jésus-Christ, la plus grande ambition de Dieu, c'est de former Christ en toi. Actuellement, Actuellement, tu vis des situations, vous vivez des situations où il y a des rêves qui sont sur le point de s'accomplir. Je vois des gens qui rêvent de se marier. Il y a des rêves qui ont été déçus. Il y a des rêves qui ont été brisés. Il y a des rêves qui sont en attente. Il y a des ambitions qui sont là. Puis on dit, je ne sais pas si j'ai le droit. Je ne sais pas si je devrais. Je suis en train de chercher la face de Dieu. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. La plus grande ambition de Dieu à travers ça, c'est de former Christ en toi. Et comme chrétien, ta plus grande ambition devrait être de chercher à connaître Dieu à travers ça, à t'approcher de Dieu. Il y aurait beaucoup à dire sur l'ambition, les amis, énormément à dire. Écoutez, j'aurais pu faire 3 mois sur l'ambition. Ça parle de tellement de choses sur notre cœur. On pourrait adresser toute la question de la foi. Un chrétien n'avance pas avec ses ambitions sans saisir ce que c'est la foi, sans saisir que la foi, c'est la foi dans une personne, c'est Dieu. Je veux provoquer, commencer une réflexion avec vous à travers cette série-là. Tout dans ma vie devient un prétexte pour connaître Dieu personnellement et intimement davantage. Premièrement, ma valeur est en Jésus-Christ. Deuxièmement, l'ambition de Dieu, c'est de former Christ en moi et moi de connaître Dieu à travers tout ce que je poursuis dans ma vie. Troisièmement, à partir du moment où je commence à vivre au quotidien cette nouvelle identité-là en Jésus-Christ, Dieu fait naître en moi de nouvelles perspectives, de nouvelles aspirations, de nouvelles ambitions. Vous allez voir, c'est là que ça commence à devenir encore plus concret. Un passage dans Éphésiens 2:10. « Car nous sommes son ouvrage, c'est lui qui est en train de nous transformer. » C'est lui qui nous a formés en Christ et qui forme Christ en nous. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À partir du moment où je suis en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a quelque chose qui part. Et Dieu va me conduire à travers mes dons, mes talents, à travers ce que j'apprends à connaître sur lui, à travers les épreuves, à travers les choses qui se passent devant moi, Dieu va me conduire dans de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Je peux le prendre au sens général, je crois que c'est là. Dieu me conduit à aimer, à faire le bien en toutes circonstances. Mais clairement aussi, Dieu, dans sa souveraineté, nous équipe avec des dons, des talents, des opportunités différentes, des passions, des désirs, des aspirations différentes. C'est beau le golf, mais j'en ai jamais rêvé. Peut-être parce que je ne suis pas très bon, là. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que je triperais. Pas certain. Une balle. Je ne sais pas. Ça ne m'allume pas. Des aspirations différentes aussi. Mais à partir du moment où mon identité est en Jésus-Christ, il y a un bouleversement de perspective qui est en train de se passer. Et donc, une des choses qui se passe, c'est que Dieu prend des ambitions anciennes. Et il vient leur donner de nouvelles perspectives. Des fois, Dieu va ranimer des ambitions anciennes, des rêves déçus qu'on avait abandonnés. D'autres fois, il va prendre des choses qui devaient servir à quelque part juste pour nous, juste pour notre gloire à nous, juste pour se démarquer nous. Puis à un moment donné, tu réalises, ouais, mais j'ai plus rien à faire pour avoir de la valeur. Toute ma valeur est en Jésus-Christ. Je vais faire ça pour quoi maintenant? De nouvelles perspectives s'ouvrent à ce moment-là. De nouvelles avenues s'ouvrent avec ce que je pourrais faire, avec ce que je suis comme personne. Et ça ne veut pas dire, que Dieu va prendre chaque personne puis il va trouver comment tu pourrais faire avec tes talents ce que tu faisais avant à temps plein pour le royaume de Dieu. Moi, j'ai eu à lutter avec ça. Puis certains d'entre vous, vous luttez aussi avec ça d'une autre manière. J'ai eu à lutter avec ça parce que, écoutez, j'ai accepté le Seigneur dans la première année, je suis allé voir le pasteur, je vous l'ai dit dernièrement, je vais être pasteur. Puis dans ma tête, j'avais un gros problème théologique, un gros problème de compréhension de la Bible. Ma vie servait à rien si je n'étais pas pasteur. Si je faisais pas ça à temps plein, étudier la Bible, enseigner la Bible, annoncer l'Évangile, c'est comme si ma vie allait servir à rien. Et pour certains d'entre vous, de manière inverse, Vous renoncez à des ambitions parce que vous dites, oui, mais c'est toutes des choses futiles à quelque part. Je travaille dans un magasin qui vend des chars. Tu sais, c'est comme, je veux dire, éventuellement, on n'aura plus besoin de ça dans la nouvelle terre. Ça ne servira plus à rien. C'est du matériel. Tu sais, ça sert à quoi, cette affaire-là? C'est inutile pour le royaume. C'est faux. C'est faux parce que tu es une lumière dans le monde. Puis là où tu as été placé à travers ta poursuite de bien faire les choses, d'être un bon témoignage avec une éthique qui se démarque, avec un cœur entièrement dévoué qui cherche le meilleur pour ton employeur, comme pour le Seigneur, nous dit Paul. Tu es une lumière qui est là, qui est absolument unique. Absolument unique. Et donc, Dieu prend des anciennes ambitions, il les raffine puis il leur donne de nouvelles perspectives. Parce que je réalise que sa plus grande ambition, c'est de former Christ en moi et la mienne est de connaître Dieu toujours plus, plus intimement. Ça peut venir changer complètement ta manière de voir le mariage. Ton ambition, c'est un mariage parfait. Là, tu réalises que l'imperfection de ton mariage et de votre relation sert à former Christ en toi et à connaître Dieu davantage. Cette transformation-là profonde, cette conversion de l'ambition, amène de nouvelles aspirations. Je réalise que ces deux plus grands commandements-là de la Bible, d'aimer Dieu de tout mon cœur et d'aimer mon prochain comme moi-même, deviennent comme le moteur de tout ce que je fais. Mes ambitions que j'avais avant, qui servaient souvent à définir ma valeur, puisqu'elles ne servent plus à définir ma valeur, peuvent vraiment servir à glorifier Dieu puis à servir le bien commun. Ça change énormément de choses. Il y a un beau proverbe sur lequel je suis tombé cette semaine, puis je ne pouvais pas faire autrement que d'entendre parler d'ambition encore. Proverbe 25, 27, « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, faire des excès, de tomber dans la paresse, tout ça, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. » Rechercher la gloire des autres est un honneur. À partir du moment où je suis libéré de définir ma valeur à travers mes réalisations, mes ambitions, ce que j'accomplis, mais que je réalise que ma valeur est en Jésus-Christ, je peux à la fois aspirer à l'excellence sur mon marché de travail et chercher à amener les gens autour de moi à se dépasser et à me dépasser. C'est possible à ce moment-là. Prendre plaisir, puisque ma valeur n'est pas dans les honneurs, prendre plaisir vraiment à honorer les gens autour de moi. Me faire un point d'honneur d'amener les gens autour de moi à se dépasser au maximum, les aider à grandir, les aider à me dépasser. C'est une aspiration qui n'était pas nécessairement là avant de connaître Christ. Mais c'est une aspiration nouvelle qui est celle de glorifier Dieu, d'aimer Dieu en toutes choses, et de me servir de mes ambitions pour le bien commun. Et donc, je peux rêver, je pourrais être un entrepreneur, puis rêver de bâtir une entreprise incroyable. Mais ce qui est bouleversé dans ma perspective, c'est que même si mon entreprise devenait la plus grosse au monde, ma valeur ne se trouve pas là. Ma valeur se trouve en Jésus-Christ. Et donc, je vais chercher à travers ça à garder tout honneur pour Dieu, toute gloire pour Dieu et à servir le bien commun à travers ça. Je vais avoir une perspective différente à servir mes employés à travers ça, à servir l'avancement de la science, la technologie, à aider des gens à réussir, à partager mon expérience, mon savoir. Pas pour les honneurs que ça m'apporte, mais parce que je vais me faire un point d'honneur à élever les gens autour de moi. Et je crois aussi qu'à partir du moment où ma valeur se trouve en Jésus-Christ, progressivement, à travers les années, il y a de nouvelles ambitions qui vont apparaître aussi. Il y a de nouvelles ambitions qui vont naître en moi, qui n'était pas du tout là dans le portrait, parce que le royaume de Dieu n'était pas là, parce que je n'étais pas libre en Jésus-Christ, parce que j'avais peur d'entreprendre des choses, parce que mes échecs allaient définir ma valeur. Puis il y a toutes sortes de nouvelles ambitions. Je l'ai dit comme ça la semaine dernière. Quand tu viens à la connaissance de Jésus-Christ, le projet que Dieu a est de former en toi l'être humain que tu es censé être. Il y a quelque chose qui s'est brisé lorsqu'on a quitté le Créateur. Cette image de Dieu en nous s'est fracturée, s'est profondément brisée. Même si on continue à refléter Dieu, il y a toutes sortes de choses qui sont brisées. Puis quand je viens à la foi en Jésus-Christ, il y a une reconstruction, il y a une nouvelle naissance qui est là, qui amène à une croissance. Puis progressivement, plus je grandis en maturité, plus je suis libre. Libre de tous ces jeux-là, de toutes ces games-là, puis c'est pas parfait. Je vous le garantis, je parle par expérience, c'est jamais 100% simple, vous comprenez? Mais je grandis là-dedans, puis il y a une liberté nouvelle. Et il y a des nouvelles ambitions qui apparaissent pour le royaume de Dieu, mais de nouvelles ambitions tout simplement aussi parce que je suis plus libre de prendre des risques, d'avancer, puis je cherche la gloire de Dieu à travers ça, puis Dieu fera ce qu'il veut avec ça, mais j'ai des rêves, je veux faire des choses. C'est William Carey, à qui on attribue souvent la paternité de la mission moderne, d'accord? Ça a été un homme complètement fou, qui est parti, qui a quitté son pays pour aller en Inde, sans grandes ressources. Et c'est William Carey qui a dit, « Attendez-vous à de grandes choses de Dieu et tentez de grandes choses pour Dieu. » Et cet homme-là avait un rêve complètement fou d'aller atteindre les Indes avec l'Évangile. Ça a été extraordinairement difficile. C'est une belle biographie à lire, la vie de William Carey. Extraordinairement difficile, avec très peu de fruits pendant des décennies, littéralement. Très difficile sur sa famille. Très difficile pour son épouse qui n'arrivait pas à supporter tout ça avec des problèmes de maladie mentale qui sont rentrés dans tout le processus. Extraordinairement difficile. Et pourtant un rêve, une ambition pour la gloire de Dieu absolument extraordinaire. Et enfin, en terminant, toutes mes ambitions, lorsque je réalise que je suis en Jésus-Christ, toutes mes ambitions servent à connaître Dieu et à former Christ en moi. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que j'apprends à avoir des rêves, j'apprends à avoir des ambitions et j'apprends à les porter devant Dieu, à les conduire devant Dieu, pour chercher à connaître Dieu à travers ça, connaître sa volonté, savoir qu'est-ce qu'il veut faire à travers ça. Mon but premier, c'est de connaître Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Écoutez, ça a été tellement mal utilisé ce verset-là avec un évangile de la prospérité, puis tu sais, une formule magique, bang, bang, bang. Mais c'est un superbe verset qui dit 100% de la vérité. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. J'apprends à apporter mes rêves, mes ambitions à Dieu et à les faire comme un projet commun avec Dieu. Parce que Dieu va se servir de ça pour me façonner, pour me faire grandir. Que ce soit un rêve avec une carrière, que ce soit un rêve de mariage, que ce soit un rêve complètement fou de faire des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Que ce soit un rêve qui peut paraître égoïste et personnel. Est-ce que quelqu'un pourrait ambitionner d'écrire peut-être la plus belle musique au monde, puis être chrétien? Est-ce qu'un Jean-Sébastien Bach peut exister? Un chrétien qui a écrit parmi les plus belles pièces musicales de toute l'histoire de l'humanité. Les plus riches, les plus complexes, les plus extraordinaires. Et il signait au bas de ses partitions « Soli Deo Gloria », à la gloire de Dieu seul. Mais il rêvait de faire une musique absolument extraordinaire pour la gloire de Dieu. Et donc, j'apprends à prendre mes projets, à venir les déposer aux pieds du Seigneur. Et donc, parfois, Dieu va faire trois choses, d'accord? De manière très concrète. Il va y avoir des ambitions qui vont être différées. Il va y avoir des ambitions qui vont être développées. Et il va y avoir des ambitions qui vont être refusées. Et donc, j'apprends à connaître Dieu en amenant mes projets aux pieds du Seigneur. Parfois, Dieu dit « Attends, patiente. » Et Dieu veut me révéler mon cœur, veut me faire connaître qui je suis à travers ça. Il veut que je le connaisse lui-même. On lit dans Lamentation de Jérémie, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Et parfois, Dieu nous dit « Attends sur nos ambitions, sur nos rêves, parce qu'il veut que nous le connaissions à travers cette attente-là. Je me cherche un emploi. C'est pur comme désir. Je veux pourvoir aux besoins de ma famille. J'ai étudié dans un domaine. Je voudrais travailler dans ce domaine-là. Qui pourrait me reprocher ça? Est-ce que ce n'est pas louable comme motif? » Et Dieu me fait attendre. Dieu diffère ce rêve-là, cette ambition-là. Parce que Dieu veut former Christ en moi, parce que Dieu veut que je m'approche de lui pour le connaître. Alors, une des choses super importantes à comprendre comme chrétien, après avoir saisi que ma valeur ne repose pas dans mes ambitions, c'est que nos ambitions et nos rêves sont parmi les outils les plus précieux que Dieu utilise pour nous faire grandir à son image. Pas pour nous faire souffrir. Dieu n'est pas un être machiavélique. Avez-vous oublié que Jésus est mort sur la croix pour vous? Est-ce que Dieu est bon? Comment je pourrais douter de la bonté de Dieu après que Jésus soit mort sur la croix? Oui, mais tu ne comprends pas, Yannick, toute la souffrance qu'il y a dans ce rêve brisé-là, dans cette ambition différée-là. C'est vrai, peut-être que je ne le comprends pas, je ne suis pas dans ton cœur, je ne le vis pas avec toi. Mais comment peux-tu douter de la bonté, de l'amour de Dieu pour toi après qu'il ait donné son Fils sur la croix pour toi? Dieu est là avec toi dans cette ambition, dans ce rêve différé, mis sur pause en attente, pour former Christ en toi et pour que tu connaisses Dieu plus intimement. Parfois, Dieu va transformer, va développer nos ambitions. Il va les, je vais prendre un terme super chrétien, il va les sanctifier. Il va les transformer à quelque part pour les raffiner. Des fois, simplement pour que ce soit plus grand, plus beau, parce que je manquais de foi. D'autres fois, parce que j'étais encore trop au centre de tout ça. D'autres fois, parce que j'allais entreprendre ce projet-là avec quelqu'un, c'était pas la bonne personne, puis Dieu veut me conduire ailleurs. Peu importe. Dieu va les développer. Et d'autres fois, c'est vrai. D'autres fois, Dieu va les refuser. D'autres fois, en cherchant la face de Dieu, en considérant les circonstances dans ma vie, je vais être obligé de conclure que Dieu me dit non à ce projet-là. Et si ma valeur repose dans ces ambitions-là et que Dieu a dit non, j'ai un gros problème avec Dieu. J'ai un énorme problème avec Dieu dans mon cœur. Puis il y a des ambitions brisées, les ambitions refusées qui sont très intimes et personnelles. Je rêvais de construire une belle famille. On allait glorifier Dieu ensemble. Mon conjoint m'a quitté, abandonné la foi. Mes enfants sont confus. Qu'est-ce que Dieu fait avec ça? Je ne veux pas minimiser la souffrance qu'il y a là. Je viens d'un foyer brisé. Rappelez-vous de ça, s'il vous plaît. Je viens d'un foyer brisé. Mais à travers toute cette souffrance-là, l'ambition première de Dieu qui est de former Christ en moi, est-ce qu'elle est encore possible? Et mon ambition première à moi, de connaître Dieu à travers ça, à travers tout ce que je fais, est-ce que c'est encore possible? Plus que jamais. Parfois Dieu dit non, parfois Dieu refuse. Mais si ma valeur est en Jésus-Christ, que ce soit à travers des ambitions qui vont se réaliser, s'accomplir, que ce soit à travers des ambitions qui vont être transformées, développées, que ce soit à travers des rêves, des ambitions qui ne vont jamais se réaliser et qui vont être brisées. La plus grande des ambitions pour Dieu, former Christ en moi, peut définitivement s'accomplir. Ma plus grande ambition, parce que ma valeur est en Christ, celle de connaître Dieu intimement, plus près que jamais, est encore possible. À travers cette série-là, ce que j'avais sur mon cœur, c'était d'adresser, je pense, un problème qui est profond pour les Québécois. Et peut-être que c'est vrai pour vous venez d'ailleurs dans le monde, peut-être que c'est vrai dans votre petit coin du monde aussi, mais c'est vrai ici au Québec. On a de la misère avec ça, l'ambition. On a des rêves, mais ambitieux, ça s'en vient. Il y a des nouvelles générations, c'est vrai, peut-être qu'il y en a plus. Je voulais adresser cette question-là parce que, en étant chrétien, on est appelé à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ, mais à travers tout ce que nous sommes, on est appelé à refléter la personne de Christ. Et c'est clair pour moi que Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils réalisent de grandes choses. Vous ne pouvez pas me faire dire le contraire de ça. Les Écritures sont super claires. Et je voulais l'adresser avec l'Église parce que je trouve que c'est un endroit où, comme chrétien, on ne sait comme pas où se positionner dans ça. On comprend bien que l'ambition conduit souvent à la quête d'honneur, la quête de gloire personnelle, détachée de tout, des ambitions qui nous amènent dans un endroit destructeur. Je ne veux pas aspirer à de grandes choses dans le sens que je ne désire pas tous les honneurs. C'est peut-être pas spirituel tout ça. Mais ce que Dieu t'a donné comme talent puis comme don, c'est très spirituel. Ce que Dieu t'a donné comme capacité, c'est très spirituel. Et l'opportunité d'exceller au travail, l'opportunité de réussir des projets, l'opportunité de faire des choses grandes et belles et extraordinaires, c'est très spirituel aussi. À partir du moment où je sais profondément dans mon cœur, que tout ce que je suis, dans son plus beau, son plus glorieux, c'est un reflet de la gloire de Dieu. À partir du moment où, à la fin de la journée, je peux me coucher en disant, Seigneur, que mes ambitions soient accomplies, différées, transformées, brisées, soli deo gloria. Ta gloire seule, Seigneur, parce que je veux te connaître davantage. Je veux te connaître personnellement à travers ça. Et ma prière vraiment, c'est qu'à travers cette courte série-là, on ait juste semé une réflexion en vous. Semé une réflexion où vous saisissez mieux votre identité en Jésus-Christ et vous saisissez mieux ce que ça veut dire être un être humain. Parce que celui qui est en Jésus-Christ est libre d'avoir de grandes et belles ambitions. Et Dieu va s'en servir pour accomplir en nous la plus grande de ses ambitions, former Christ en nous. Former Christ en nous pour sa gloire et nous le connaître. Au début de la série, je vous ai parlé d'un livre, je vous le rappelle, le livre de Dave Harvey, « Secourir les ambitions ». Moi, je vous encourage à aller lire ça. Je vous encourage à lire de la bonne théologie sur notre identité en Jésus-Christ. C'est super précieux. Je vous encourage à prendre votre Bible cet été. Prendre votre Bible cet été et regarder des rêves que Dieu donne à des gens dans les Écritures. Et Dieu les conduit à travers ça. Dieu les façonne. Dieu les forme à travers ça. Je vous encourage cet été. Vous allez partir en vacances. Si vous n'avez pas eu le courage de le faire encore, je vous encourage sérieusement à prendre un temps avec Dieu pour écrire. C'est quoi vos ambitions? C'est quoi vos rêves? C'est quoi les ambitions que vous avez abandonnées? Peut-être qu'il y en a qui sont en arrière, puis Dieu a dit non. Qu'est-ce que Dieu vous a appris à travers ça? Qu'est-ce que Dieu a façonné en vous à travers ça? Comment Dieu vous a fait grandir? Quelles leçons est-ce qu'il avait pour vous? Et de commencer à demander à Dieu, « Seigneur, comment tu peux te servir de moi maintenant pour que j'aie des rêves, que j'aie des ambitions et qu'à travers ça, je cherche toujours plus à te connaître personnellement? » On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, il y a tellement, tellement à dire sur l'ambition, sur ton image en nous, Seigneur, sur la gloire de Christ, sur ces honneurs que je veux recevoir de ta bouche, Seigneur, au jour où tu me diras, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, je te prie de nous faire grandir comme Église. C'est le projet d'une vie, former Christ en nous, Seigneur. Je te prie pour ceux et celles, Seigneur, qui fréquentent l'Assemblée et qui ne peuvent pas affirmer que leur identité profonde se trouve dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour eux, Seigneur. Conduis-les, Seigneur, à s'abandonner entièrement à Jésus-Christ et à son œuvre pour leur valeur, pour leur réconciliation avec toi, pour le pardon de leurs péchés, de toutes ces ambitions égoïstes peut-être. Seigneur, fais-nous grandir, forme Christ en nous et apprends-nous à grandir avec nos rêves, avec nos ambitions. Apprends-nous à exceller, apprends-nous à bien faire, apprends-nous à se dévouer. Fais fuir la paresse qui nous conduit à avoir peu d'ambition, Seigneur. Et apprends-nous à te connaître à travers tous ces rêves-là. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.